Merci à toutes les personnes qui sont intervenues et en dernier lieu au groupe de jeunes. Merci pour les interventions de chacun. Merci pour tout ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant. Alors, Déborah et Adeline, c'est une joie de vous connaître et de voir comment le Seigneur a agi dans votre vie. On a entendu votre témoignage tout à l'heure. Et c'est vrai que le baptême, c'est une étape importante dans la vie du chrétien. J'aimerais vous laisser une exhortation pour vous encourager à continuer et à bien continuer sur ce chemin de la vie chrétienne. Mais en réfléchissant à ce que j'allais dire ce matin, je me suis dit, quelle exhortation ? Quelle exhortation ? Quel passage de la Bible pourrait être particulièrement pertinent par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, l'étape de vie dans laquelle vous êtes actuellement. Et alors, quelque chose s'est imposé à moi, comme ce qui me semblait être une évidence, alors je vous en laisserai juge, mais voilà, j'ai osé. Les personnes qui fréquentent notre Église savent que nous étudions le livre de l'Ecclésiaste depuis maintenant septembre dernier, à raison d'un ou deux enseignements par mois. Ce livre de l'Ancien Testament qui porte le nom de la personne qui s'exprime dans le livre, et l'Ecclésiaste affirme que tout dans ce monde est dérisoire, décevant, frustrant, avec des choses éphémères qui ne durent pas. Il en fait la démonstration dans différents domaines de la vie. Les réalisations de l'être humain, les possessions, les biens, les richesses, les attaches qu'on peut avoir avec des personnes, etc., etc. Et tout cela pour montrer que toutes ces choses, même si elles ont quelque chose de bon en elles-mêmes, laissent malgré tout dans l'insatisfaction et dans la frustration. Mais l'Ecclésiaste dit aussi que la conséquence du péché, c'est cela qui a conduit l'être humain dans cette condition humaine que nous partageons tous. Le péché, c'est cette désobéissance de l'être humain à l'égard de Dieu, son Créateur. Et tout au long de son discours, il fait part de l'une ou l'autre de ses frustrations, de ses insatisfactions, mais en même temps, l'Ecclésiaste a régulièrement terminé chacune de ses questions qu'il aborde, chacune des thématiques, avec une invitation à jouir des bonnes choses que la vie apporte. Car la vie apporte aussi de bonnes choses. Et nous sommes invités à les recevoir comme telles, comme des dons de la grâce de Dieu au milieu d'une existence qui contient son lot d'épreuves, de difficultés, de pénibilités, de souffrances. Il nous invite dans son livre à entreprendre diverses actions, alors de préférence des actions qui sont utiles, pertinentes, bonnes, qui tiennent compte aussi de nos limites, de ce que nous sommes, et qui nécessitent parfois aussi de prendre des risques ou d'avancer à tâtons. Par exemple, l'Ecclésiaste dit la chose suivante : « Dès le matin, répands ta semence, et jusqu'au soir, ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l'une ou l'autre activité laquelle réussira, ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. » Et ensuite, on a une énième invitation dans le livre à profiter de ce que la vie apporte de bon dans les versets 7 et 8. « Agréable est la lumière et il fait bon de voir le soleil. C'est pourquoi, si quelqu'un vit de nombreuses années, qu'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux et que tout ce qui est à venir est dérisoire. » Et l'exhortation que j'aimerais vous laisser, Déborah et Adeline, nous la trouvons là, juste après ces trois versets que nous venons de lire. On est quasiment à la fin du livre. L'Ecclésiaste vient finir le corps de son discours. On touche quasiment à la conclusion et voici ce qu'il dit. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et que ton cœur se fasse du bien au jour de ta jeunesse. Marche en suivant les chemins où tu voudras aller et ce vers quoi se portent tes regards. » Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte l'anxiété de ton cœur et éloigne la souffrance de ton corps, car la jeunesse et la fleur de l'âge partent en fumée. Et tiens compte de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Ça semble approprié quand même. L'Ecclésiaste nous interpelle ici. Jeune homme, alors c'est vrai, dans la culture de l'époque, Dire jeune homme, c'était parler d'une personne, homme ou femme, qui pouvait avoir jusque dans la quarantaine. Autrement dit, des personnes qui sont en pleine force de l'âge. Et il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et que ton cœur se fasse du bien au jour de ta jeunesse. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que l'Ecclésiaste est en train d'emprunter le ton de l'ironie ici, comme s'il disait « Vas-y, vas-y, donne-toi du bon temps, profite, fais ce que tu veux !» Mais attention, hein, Dieu te condamnera pour ton attitude. Je ne crois pas que ce soit le cas. Il y a trop d'invitations dans ce livre à accueillir les bonnes choses de la vie, à les recevoir, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, comme des grâces de Dieu, pour penser que ce soit le ton de l'ironie ici. Je crois bien plutôt que l'Ecclésiaste nous invite et vous invite, Déborah et Adeline, réellement à profiter de la vie. Ce qui me fait dire cela, c'est que l'Ecclésiaste commence cette nouvelle section avec l'invitation à profiter des bonnes choses, alors que dans toutes les autres parties de ce livre, il avait terminé par cette invitation à profiter des bonnes choses de la vie. Et la raison, c'est que dans la section qu'il commence aujourd'hui, et qu'on n'a pas tout lu, j'ai mis des points de suspension à la fin du verset 1 du chapitre 12, il continue en exposant, en évoquant la vieillesse, cette étape de la vie où les facultés s'amenuisent. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste veut nous inviter à profiter des bonnes choses, tant qu'on en a la possibilité. Car viendra un jour où notre aptitude à profiter des bonheurs de la vie va diminuer, voire même disparaître. La perspective de la vieillesse devrait alors nous conduire à bien profiter de cette période de la vie qui correspond à la jeunesse, à la force de l'âge. Et donc nous lisons avec l'Ecclésiaste, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et que ton cœur te fasse du bien au jour de ta jeunesse. » On a ici l'invitation vraiment à se réjouir, à profiter de la vie, à s'occuper avec des activités qui procurent de la joie. Et cela commence par un état d'esprit. Parce que le cœur dont il est question ici dans la deuxième partie du verset, le cœur, ça désigne le siège de notre volonté, ce qui fait nos dispositions intérieures et donc notre état d'esprit. Qui dit état d'esprit dit manière d'appréhender la vie et les circonstances que nous pouvons traverser. L'Ecclésiaste poursuit en disant « Marche en suivant les chemins où tu voudras aller et ce vers quoi se portent tes regards. » Marcher, dans la Bible, c'est une manière de dire « Agis, comporte-toi, sois dans l'action. » Il y a ici une invitation à entreprendre, à se lancer dans des activités qui sont utiles, qui sont pertinentes, tant qu'on en a les moyens et les capacités, bien sûr. C'est l'invitation aussi à faire des choses qui font plaisir. Contrairement à ce qu'on peut penser parfois, il y a de la place pour les loisirs et les plaisirs dans la vie avec Dieu. C'est un refrain dans tout ce livre de l'Ecclésiaste. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie austère ou poussiéreuse, loin de là. Il y a une place pour les choses qui font plaisir dans la vie du croyant. Peut-être écouter de la musique, jouer d'un instrument de musique, la pratique d'un sport, partir en vacances après une année studieuse, balader, faire du tourisme, point de suspension. Il y a une place réelle pour les plaisirs et les loisirs dans la vie avec Dieu. Cela étant dit, l'Ecclésiaste poursuit son discours avec cette mise en garde. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. L'Ecclésiaste n'est pas en train de faire marche arrière ici. Souvenons-nous, le ton n'est pas ironique. Ce n'est pas le fait de prendre du plaisir dans la vie qui est mauvais et qui nous attirera le jugement de Dieu. L'Ecclésiaste recommande bel et bien de saisir la vie, de profiter du bon que la vie nous donne, et ce, en particulier, pendant les premières années de la vie. Mais encore faut-il le faire de la bonne manière, et donc pas n'importe comment. Il y a des plaisirs qui sont bons, qui sont utiles, qui sont profitables, et il y en a d'autres qui sont mauvais, coupables et nuisible. Et cela vaut également pour toutes les choses que nous pouvons entreprendre. Alors, pour le dire autrement, profiter de la vie, agir, oui, mais en conformité avec la volonté de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Car la Bible nous communique la volonté de Dieu, la volonté morale de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu considère comme étant le bien, et inversement aussi ce que Dieu considère comme étant mauvais, nuisible pour nous, ses créatures. C'est Dieu qui dicte les règles. C'est pourquoi Dieu pose le cadre de notre action, un cadre qui est bienveillant, un cadre qui est bon. La joie et le bonheur véritable dont l'Ecclésiaste parle dans son livre ne sont possibles que si on vit et agit en conformité avec les règles que Dieu pose et pas selon nos règles à nous. L'Ecclésiaste et sa lucidité légendaire, et on l'a déjà vu bien des fois dans son livre, c'est bien que les années de la jeunesse sont des années où les plaisirs peuvent prendre une ampleur parfois démesurée et nous faire sortir du cadre posé par Dieu. D'où son exhortation à vivre pleinement, en tirant plaisir de la vie, mais à le faire selon les règles, à le faire dans le cadre bienveillant et bon que Dieu pose. Et l'Ecclésiaste poursuit au verset 10 en disant « Écarte l'anxiété de ton cœur et éloigne la souffrance de ton corps. » Il nous recommande ici d'éviter d'ajouter ce qui pourrait causer de l'anxiété, de la tristesse, du chagrin, c'est traduit diversement selon les traductions, du malheur ou de la souffrance. Alors ça peut paraître curieux parce que l'Ecclésiaste a martelé bien des fois tout au long du livre que l'existence contient son lot de souffrances, de malheurs, sans qu'on soit maître des circonstances. Donc, écarte, éloigne, on n'est pas toujours maître. Que veut-il dire ici? Il me semble que l'Ecclésiaste nous invite à ne pas ajouter des malheurs à l'existence qui contient déjà son lot d'épreuves. Quand il dit « écarte l'anxiété de ton cœur », c'est une manière de dire de ne pas se laisser abattre, de ne pas laisser submerger par les soucis de la vie. Et il y en a déjà bien assez comme ça pour se rajouter de l'anxiété. L'anxiété, c'est bien un des maux de ce siècle, venant ajouter à la dureté de la vie. Écarter l'anxiété pour mieux profiter de la vie. C'est un état d'esprit qui va nous amener à regarder aux choses positives, à voir le verre à moitié rempli plutôt que l'inverse. Quand il nous invite ici à éloigner la souffrance de notre corps, ce n'est pas nier les causes ni la réalité de la souffrance. Elles sont bel et bien là. Mais il s'agit surtout d'éviter les causes de souffrance que l'on peut éviter. Par exemple, en se comportant avec sagesse, on peut éviter certaines souffrances ou malheurs du fait d'actions qui seraient peut-être imprudentes ou qui nous feraient sortir du cadre posé par Dieu. Et il nous en donne ici la raison à la fin du verset 10, quand il dit « Car la jeunesse et la fleur de l'âge partent en fumée ». Déborah et Adeline, du haut de vos 17 et 16 ans, gardez-vous de penser « J'ai le temps avant la vieillesse ». Les années de la jeunesse passent vite. Et viendra un temps où l'on aura moins de capacité. Et ce sera dommage de se lever un matin en prenant conscience d'avoir laissé passer tout ce temps que le Seigneur vous a donné sans en profiter, dans le cadre bon et bienveillant posé par Dieu. Et donc c'est maintenant qu'il faut agir, qu'il faut entreprendre tout en étant conscient, consciente, que même dans la fleur de l'âge, on est exposé là aussi à des limites, à des frustrations. Nous terminons avec ce que l'Ecclésiaste dit au verset 1 du chapitre 12. « Et tiens compte de ton Créateur au jour de ta jeunesse. » De nouveau ici, l'Ecclésiaste définit le cadre dans lequel nous sommes invités à profiter de cette partie de la vie qu'est la jeunesse, la fleur de l'âge. Et je le mentionne en passant, ce cadre vaut pour toutes les années de la jeunesse, bien sûr, mais aussi pour tous les âges de la vie du croyant. En fait, c'est la référence au Créateur, c'est-à-dire à Dieu lui-même qui doit orienter et déterminer notre manière de vivre, d'agir, de penser. Tenir compte de notre Créateur, cela commence par la prise de conscience qu'il est Dieu. Nous sommes ses créatures, il est notre Créateur. Ça remet les choses sur le bon alignement. Cela se prolonge aussi par la volonté de le connaître davantage. Et ça passe par ces moments aussi d'intimité avec le Seigneur, où on se place à l'écoute du Seigneur en lisant sa parole, en priant, dans le recueillement, dans la contemplation. C'est reconnaître aussi et accepter sa seigneurie sur notre vie. C'est se soumettre à ses lois qu'il nous communique dans la Bible, dans sa parole, tout en étant conscient qu'en tant que notre Créateur, il sait ce qui est bon pour nous. Et donc ses lois, ses commandements sont bonnes pour nous, ne sont pas pénibles. C'est même la Bible qui le dit. Tiens compte de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Et l'Ecclésiaste continue cette section avec un poème sur la vieillesse quand il dit « Avant que ne viennent les jours de malheur et qu'arrivent les années dont tu ne diras « Je n'y prends pas plaisir » et ainsi de suite. » S'ensuit ce poème sur la vieillesse. L'Ecclésiaste nous invite et vous invite, Déborah et Adeline, à croquer la vie à pleines dents. Mais en tenant compte de votre Créateur, car nous aurons, vous aurez, à rendre des comptes pour la manière dont vous aurez agi. La vie est un don de Dieu et Dieu veut qu'on en profite, mais pas n'importe comment. Pour en profiter au mieux, il faut rechercher à rendre gloire à Dieu, à obéir à ses commandements, et c'est vrai que ça peut paraître contraignant. Et c'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de sceptiques voient la vie chrétienne. C'est une vie austère, poussiéreuse, une liste de choses à faire ou à ne pas faire, une liste de commandements. Ah, puis t'as encore échoué là. Bah. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas suivre une liste de commandements. La vie chrétienne, c'est suivre une personne. Une personne qui a vécu bien après l'Ecclésiaste, mais en qui l'Ecclésiaste plaçait son espérance. Car la Bible entière pointe vers cette personne. Cette personne n'est autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand on lit la Bible, et les évangiles en particulier, on voit en Jésus un homme qui a vécu une condition semblable à celle de l'être humain pécheur que nous sommes. Dans tout ce qu'il a fait, Jésus a pleinement accompli la volonté de Dieu, sans jamais désobéir. Il a toujours été dans une obéissance joyeuse, pourrait-on dire. Et pourtant, Jésus savait que la mort l'attendait. Une mort qu'il ne méritait pas d'ailleurs, contrairement à nous qui méritions de mourir à cause de nos péchés, de nos fautes, de nos désobéissances. Mais Jésus a donné sa vie pour nous. Il a pris notre place en mourant sur la croix pour que nous ayons la vie. Et nous lisons ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 10, les versets 7 à 11, où c'est Jésus qui dit « Vraiment, je vous l'assure, moi je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. » Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Il est le bon berger qui a donné sa vie pour nous, ses brebis. Jésus veut que nous vivions cette vie en abondance. Et c'est pourquoi il s'est livré et a donné sa vie pour nous sauver. Et c'est ce qu'on a entendu dans ces témoignages aussi que vous nous avez communiqués tout à l'heure sur votre vie, votre parcours de vie. Là où l'Ecclésiaste affirme que tout dans cette vie est décevant, dérisoire, tout est éphémère, les choses ne durent pas. Jésus veut nous donner la vie en abondance. Ce n'est pas une vie matérielle abondante. Ce n'est pas la garantie de la réussite dans toutes nos entreprises non plus. Ce n'est pas une vie où la jouissance dans les biens de ce monde est recherchée comme étant le but ultime, parce que ça nous ferait manquer de tenir compte de notre Créateur, contrairement à ce que l'Ecclésiaste dit. Ça serait placer notre joie dans les biens créés au lieu de placer notre joie dans le Créateur lui-même. Non. Déborah et Adeline, et chacun ici présent, la vie en abondance, c'est une vie où Dieu tient une place centrale et dans laquelle nous entretenons une relation, une communion avec Dieu. Nous sommes en relation avec lui. C'est une vie de joie, une vie de bonheur, vécue dans l'obéissance à Jésus et à ses commandements, qui, je le rappelle, ne sont pas pénibles. Ils sont bienveillants pour nous. Ils veulent nous préserver de bien des dangers. C'est une vie nouvelle qui débute dans la vie présente et qui se poursuit jusque dans l'éternité. Et les choses bonnes que l'on peut vivre dans la vie présente, ces choses que Dieu met à notre disposition pour qu'on en profite, ne sont en fait qu'une anticipation des biens dont celui ou celle qui place sa confiance en Jésus-Christ jouira pour l'éternité et donc dans cette vie au-delà. C'était déjà l'espérance de l'Ecclésiaste quelques 1000 ans environ avant la venue de Jésus. Et c'est notre réalité à nous aujourd'hui si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ.